Nous sommes en 1725 à Versailles. Toute la cour du roi Louis XV est réunie pour accueillir en grande pompe des ambassadeurs venus de loin. Ils sont torse nus et leurs vêtements de cuir richement décorés ne ressemblent à rien de déjà vu de ce côté-ci de l'Atlantique. Devant le souverain français défilent pour la première fois les représentants des Osages, des Illinois, des Otos et des Missouri, les nations amérindiennes alliées des Français sur le continent nord-américain. Le chef des Kaskaskia, un interlocuteur particulièrement stratégique pour les Français, n'a pas pu faire le déplacement en bateau avec les autres. Son territoire est menacé par les guerriers renards, les alliés des Anglais. Il doit mener la défense de son peuple et protéger les intérêts des Français. Alors, faute de pouvoir faire le voyage, ce chef, nommé Mamantuensa, a confié à un père missionnaire un objet symbolique. Un ouvrage de la taille d'une écharpe, en perles de coquillage, blanches et violettes, dont la légèreté et le raffinement fait pousser des exclamations à la cour. Ce collier s'appelle un wampum, et il a valeur de contrat avec l'État français. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je suis Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, mais aussi leurs doutes sur les sujets qui les passionnent.
Les wampum, on les a stockés dans notre atelier de restauration et c'est là que j'ai pu les étudier. Donc c'est des pièces en fait qui sont assez souples finalement. Vous avez ce mouvement très fluide des perles. La fabrication de ces perles requiert beaucoup de temps. Donc voir cette homogénéité des perles, déjà c'est assez impressionnant parce qu'on voit derrière tout le travail que ça a représenté. Quand on les manipule, quand on les voit de près, il y a beaucoup d'émotions parce que l'on sait qu'ils sont porteurs d'une histoire extrêmement riche.
Paz Núñez Reguero est historienne de l'art et conservatrice au musée du Quai Branly. Elle est responsable des collections américaines du musée et en particulier des collections royales d'Amérique du Nord. On y trouve les objets venus du Canada et des États-Unis les plus anciens du monde. Produit par une vingtaine de nations autochtones entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, pendant la période de la colonisation française.
Alors c'est une collection assez importante, on parle d'environ 250 pièces si on exclut les très nombreuses flèches que l'on a aussi dans cette collection. C'est donc des pièces qui viennent probablement de toutes les régions que couvrait la Nouvelle-France. Donc on a en effet les wampum qui sont des objets diplomatiques importants, mais on a aussi des peaux-peintes, des mocassins, des jambières, des sacs, des boîtes en eau corse décorées de broderies en piquant de porc-épic ou d'orignal. Donc c'est très intéressant parce que vous avez quand même une très vaste panoplie de pièces qui évoquent les modes de vie et aussi le style développé par différentes nations en Amérique du Nord. Après, je pense qu'une des pièces les plus surprenantes de la collection, c'est des mocassins qui sont faits en pâte d'ours, qui étaient en usage dans la vallée du Mississippi, qui sont assez émouvantes aussi parce qu'ils ont été très très usés, et tellement usés qu'on a dû mettre une semelle de renfort pour continuer à les utiliser. Donc c'est des objets qui étaient probablement utilisés par des guerriers ou des chamans, remarquablement bien conservés.
Au tournant du XVIIIe siècle, le territoire nord-américain est le théâtre de multiples affrontements. Les différentes nations amérindiennes sont déjà engagées dans des combats les unes contre les autres, avec des jeux d'alliances complexes. Et l'arrivée des Européens complique encore la situation. Alors que les Anglais s'installent le long de la côte Est et créent de véritables colonies, les Français étalent leur présence autour du fleuve Saint-Laurent, des grands lacs américains et aussi le long du fleuve Mississippi. Ce vaste territoire, appelé Nouvelle-France, est exploité pour ses ressources naturelles et en particulier pour ses fourrures, qui sont ensuite acheminées par bateau vers l'Europe.
Souvent, c'est les nations elles-mêmes qui vont les récupérer et les vendre aux Français, qui les échangent contre beaucoup de produits de traite, comme des objets en fer, des perles, des tissus, etc. Beaucoup de biens que les nations autochtones vont adopter pour se vêtir, pour s'orner, donc des objets qui sont vraiment des biens de prestige pour eux.
Vous voulez dire qu'il s'agit en fait plus d'une relation commerciale que d'une relation d'exploitation, comme on l'imagine quand on parle de colonisation ?
Oui, tout ça, c'est des échanges commerciaux. Chacun s'y retrouve, hein. Ça, il n'y a pas de problème, sinon il n'y aurait pas d'alliance. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas tellement de Français, finalement, dans ce grand territoire qu'est la Nouvelle-France. Donc, ce n'est pas une présence très envahissante. Cette présence envahissante, elle va s'accentuer lorsque les Français et les Anglais vont commencer à étendre leur territoire. Là, oui, la pression va se faire sentir. Et on voit des populations, des nations qui bougent, qui essaient de s'adapter.
Pour compenser leur faible présence, les Français passent donc des alliances avec des dizaines de nations amérindiennes. Et ces accords politiques et commerciaux sont matérialisés non pas par des traités écrits, mais par des colliers de coquillages, les wampums.
Donc les nations nord-amérindiennes n'utilisent pas d'écriture, donc toute la mémoire, tous les savoirs se transmettent par le biais de l'oralité. Donc par exemple, les messages associés aux wampums sont mémorisés par des gardiens de wampum que chaque nation a. Et de génération en génération, les messages associés à ces pièces sont transmis au sein de la communauté.
Après la Révolution française, puis l'abandon des colonies d'Amérique par Napoléon Bonaparte, la plupart des objets des collections royales ont été sauvegardés, mais sans aucune information associée.
L'épisode de la Révolution française a vraiment été un moment traumatisant en quelque sorte pour la connaissance et l'histoire de ces collections, puisqu'elles ont été recueillies et préservées, mais elles ont été soustraites aux armoires, aux espaces qui les présentaient et où il y avait un essai de classification qui aurait permis de retrouver des indices quant à l'origine des collections.
Dans ce labyrinthe d'objets sans attribution que sont les collections royales d'Amérique du Nord, les wampums présentent un avantage pour Paz Núñez Reguero et son équipe, car ils sont souvent associés à des événements diplomatiques, dont il reste une trace écrite.
Et en particulier, on a un wampum très connu dans les collections, qui est un wampum qui figure quatre personnages, qui portent un arc à la main, donc ces quatre personnages figurés de manière très géométrique. Et en général, les motifs de petits personnages représentent des nations. Donc c'est a priori un collier qui a servi à matérialiser une alliance avec quatre nations autochtones. Donc si on revient à la visite de 1725, et à ce collier qui a été offert par le chef Mamantuensa à Louis XV, c'était donc un chef qui s'exprimait au nom des quatre nations Kakaskia, et c'est la raison pour laquelle on se dit que ce wampum pourrait être celui qui a été offert lors de cette visite.
Avant d'émettre cette hypothèse, Paz Núñez Reguero et son collègue Nicolas Hostoleu ont eu accès à une archive précieuse. Le récit, par le détail, de la visite diplomatique des chefs amérindiens publiée dans le Mercure de France, l'équivalent au XVIIIe siècle de Paris Match.
C'était la seule revue qui était publiée à l'époque, qui faisait un petit peu l'état de ce qui se passait. Elle est toujours très étudiée par les historiens, etc. Mais c'est vrai que quand on relit ce témoignage, après avoir passé autant de temps à étudier les wampums, ça prend un tout autre aspect. Et ça devient quelque chose de très vivant. Je trouve ce témoignage absolument extraordinaire.
Dans ce long article, on apprend notamment que les chefs des nations amérindiennes ont offert, mais aussi reçu des cadeaux de la part de la cour du roi, et en particulier du duc d'Orléans, le cousin de Louis XV, et sa femme Jeanne de Bade.
C'est très émouvant parce que sa toute jeune femme, qui en fait va mourir un an plus tard, elle offre au chef illinois, je crois, une tabatière en écailles de tortue avec des diamants. Enfin, tous les présents était très important dans ces relations. Les Français ont essayé d'éblouir leurs partenaires autochtones en leur montrant tout ce qui était fait à Paris, en les emmenant à l'opéra, etc. Et puis ensuite, le fait de voir que le roi les invite à la chasse aux lièvres. Finalement, je me pose la question de savoir comment Louis XV a réagi en les voyant, je ne sais pas, tirer avec leurs flèches. Et c'est très émouvant parce qu'il y a eu un réel intérêt pour ces délégués qui ont dansé à la mode de leur pays, comme ils disent dans les textes. Et tout ça va être très apprécié. D'ailleurs, c'est une visite qui va beaucoup inspirer Jean-Philippe Rameau, qui va plus tard faire cette pièce de musique « Les Sauvages », qui fait partie des Indes galantes.
Ce n'est pas la première fois que Paz Núñez Reguero s'intéresse ainsi au contexte de réception et de collection par la société occidentale des objets produits par les nations autochtones. En parallèle de son travail de conservatrice sur les collections américaines du musée du Quai Branly, Paz Núñez Reguero s'est lancée dans un doctorat d'histoire de l'art en 2009. Avec pour fil rouge une partie des collections dont elle a la responsabilité et pour lesquelles elle manque cruellement d'informations. Les objets de Patagonie, cette région située à l'extrême sud du continent américain.
J'ai fait de l'histoire de l'art, mais après mes études d'archéologie précolombienne, j'ai été en formation à l'Institut national du patrimoine et j'ai tout de suite pris mon poste au musée du Quai Branly un an avant l'ouverture. C'est un rythme assez effréné. Ça a été magnifique de vivre les débuts d'une institution aussi importante et j'ai tout de suite décidé de réaliser ma thèse sur un sujet en lien avec les collections que je gérais, puisque ça me semblait la meilleure façon de mettre mes compétences au service et de la recherche et de l'institution. Mais je me suis dit, avant de pouvoir travailler sur cette culture matérielle, il faut la contextualiser, savoir exactement quand elle a été produite, qui l'a produite, etc. Et au final, j'ai été complètement happée par cet aspect-là, sur les pratiques de collecte, sur les expéditions françaises en Amérique du Sud, qui a finalement été le sujet de ma thèse.
Pendant 5 ans, Paz Núñez Reguero travaille sur sa thèse le soir, après ses journées de travail qui sont déjà bien remplies. En 2016, elle obtient une bourse et peut enfin se consacrer à la recherche. Elle passe 2 mois à Dumbarton Oaks, un institut de Harvard consacré aux collections byzantines et précolombiennes, dans le département de Colin McEwan, archéologue de formation et ancien conservateur au British Museum.
Et j'y suis allée avec mes 3 enfants, toute seule. Donc c'était un peu stressant d'être dans un institut qui a un très haut niveau et une des très grandes attentes. Et du coup, j'étais tout le temps très stressée. Et un jour, Colin m'a dit, passe, viens ici, regarde le ciel, regarde les nuages. Et puis on a regardé un longtemps les nuages. Et puis en fait, il m'a fait comprendre tout bêtement que je pouvais faire du bon travail dans les musées, dans la recherche, tout en pouvant m'occuper de mes enfants tranquillement et que j'avais une grande légitimité à le faire. Et ça m'a beaucoup touchée, étant donné l'admiration que je lui vouais. Et il m'a enseigné en fait à avoir cet équilibre entre le travail et la famille. Et je ne m'attendais pas à apprendre ça à Washington dans le cadre de cette bourse recherche.
Paz Núñez Reguero boucle finalement sa thèse en 2018. Après 9 ans de travail, elle voit ses efforts récompensés par le prix Valois du ministère de la Culture.
Mais dans le cadre de mes recherches de Patagonie, j'avoue que le moment le plus fort a été d'identifier dans les collections du Musée de l'Homme les restes humains du fils d'un cacique qui avait été visité par un explorateur qui a mené une expédition en Patagonie en 1896-97.
Par ses recherches, Paz Núñez Reguero découvre que le corps du fils de Liempichun Sakamata, l'un des chefs des Tehuelche, avait été ramené en France par l'explorateur Henri de Lavaux. Une information précieuse pour les descendants des Tehuelche en Patagonie. Selon les croyances de leurs ancêtres, le cercle de la vie ne se referme que si le corps revient à la terre-mère. Il doit donc revenir en Patagonie.
Et aujourd'hui, ce corps est demandé en restitution par les descendants de cette famille. Donc c'est vrai que c'est des moments, je pense, importants de pouvoir aider ces communautés à retrouver les traces de leurs ancêtres. On laisse parfois peu de place à la voix des professionnels de musée lorsqu'il s'agit de considérer des collections constituées en contexte colonial, en se disant que ce n'est pas les objets qui proviennent de nos cultures, etc. Mais en fait, toutes les archives conservées en France qui permettent de documenter ces pièces, c'est quelque chose de très, très précieux pour expliquer comment ces collections venues du monde entier sont arrivées chez nous et pouvoir expliquer également comment ces pièces ont été conservées.
Depuis 2019, la chercheuse s'inspire des méthodes qu'elle a inaugurées autour des collections de Patagonie pour s'attaquer à une autre collection, dont elle a aussi la responsabilité depuis 2005, mais sur laquelle il y avait encore peu de dialogue avec les nations autochtones, la collection royale d'Amérique du Nord. Elle monte un projet de recherche avec des financements à la fois français et américains afin d'établir des partenariats avec les communautés aux États-Unis.
C'est la Terra Foundation et la Fondation des sciences du patrimoine qui m'ont payé déjà 3 contrats annuels pour des chercheurs qui travaillaient à plein temps sur notre projet. Parce que vous me disiez, quand est-ce que je fais ce projet ? Ben, en fait, je le fais après le travail. Parce qu'un musée national, ça assure un service public qui prend la plupart de notre temps. Donc c'est vrai que ces projets de recherche comme ça, ils sont très envahissants sur la vie privée. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on puisse ne pas devenir amis avec ses partenaires, c'est quelque chose qui va au-delà en fait, du professionnel à un moment donné. Parce que ça engage beaucoup de temps, mais en même temps, ça engage beaucoup d'émotions et d'émotions saines. Et à un moment donné, ça donne tout le sens à son travail.
Et comment vous sélectionnez vos interlocuteurs ? Est-ce que c'est des chercheurs ou est-ce que ça n'a rien à voir ?
Des réseaux très, très variés, mais nous, en tout cas, en ce moment, on a un dialogue plus étroit avec 8 nations autochtones qui participent à différents niveaux, parce que des fois, on travaille avec un centre culturel qui ne va pas être le centre culturel de la nation, mais c'est une institution où travaillent des gens qui sont des porteurs culturels pour leur nation. Donc, à ce titre, ils sont légitimes d'être des bons interlocuteurs pour nous. Disons que leur voix vaut pour celle de leur communauté, puisqu'ils ont été choisis comme des représentants de leur communauté. C'est des ritualistes, des artistes, etc. Et puis vous avez d'autres collaborations qui se font directement avec les départements de préservation historique. On travaille avec la nation Choctaw, ils sont 200 000 membres, donc c'est l'une des plus grandes nations autochtones aux États-Unis. Et eux, ils ont un service de préservation historique de 30 personnes avec des spécialités très développées qui ont les moyens de voyager s'ils ont besoin de voyager à leurs frais, etc. Il y a d'autres nations comme les nations Quapa ou Miami avec lesquelles on travaille qui comptent aujourd'hui 200-300 membres et du coup, ils ont des services moins développés.
Paz Núñez Reguero a besoin de ses partenaires autochtones. Eux seuls ont l'expertise et la connaissance des sources nécessaires pour le travail colossal que constitue la recherche de provenance d'un objet.
Ça se passe toujours bien parce qu'en fait, les gens qui viennent travailler ici, ils ont envie la même envie que nous de développer un dialogue, de mieux comprendre ces collections. Et finalement, le statut de ces collections et ce qu'on va en faire pour l'avenir, il arrive peut-être à un moment donné, mais il est défini de manière consensuelle. On a commencé notre dialogue avec les Sénécas. On ne savait pas trop comment ils allaient réagir, notamment au regard des wampum qui sont conservés en France. C'est une des nations qui a le plus demandé d'objets en restitution. Donc, on savait que la question allait être posée, mais au final, c'est eux qui les ont identifiés comme des cadeaux diplomatiques.
Les représentants des nations autochtones sont régulièrement impliqués aux côtés des équipes du musée du Quai Branly sur les questions d'attribution ou de restauration. Et quand ils le peuvent, ils partagent leur savoir-faire, par exemple autour de la conservation des broderies en piquant de porc-épic qui ornent en particulier certains wampum de la collection.
Donc on a eu la chance d'inviter un partenaire Sénéca, Jamie Jacobs, qui nous a fait un atelier de piquant de porc-épic au musée pour les conservateurs et les restaurateurs. Et ça a été vraiment très important pour nous, pour comprendre effectivement toutes les difficultés qu'il y a à pratiquer cette technique. Donc par exemple, tout le travail en piquant de porc-épic, c'est beaucoup développé dans la région au sud des Grands Lacs. Et on a des catégories très particulières de ce qu'on appelle à l'époque des sacs à pétain, des sacs à tabac, qui ont une forme rectangulaire et une partie inférieure recouverte d'une broderie en piquant de porc-épic pour donner un motif décoratif, par exemple le motif de l'oiseau tonnerre. Donc ça, c'est une catégorie d'objets associés à l'ancien pays des Illinois.
Et à quoi l'on reconnaît l'oiseau tonnerre ?
C'est un oiseau qui est toujours présenté avec un bec bien prononcé et des ailes déployées.
Donc quand on voit un oiseau comme ça sur un objet, on se dit qu'il vient probablement du territoire illinois ?
Non, on va plutôt combiner différents aspects. Ça peut être l'iconographie, le style, la forme de l'objet et éventuellement la comparaison avec une pièce qui est plus précisément documentée.
Quand elle reçoit les représentants des nations autochtones, Paz Núñez Reguero leur prépare tout un itinéraire sur les traces de leurs ancêtres.
J'organise toujours pour eux une visite au château de Versailles, par exemple, ou au musée du Louvre, si ça a du sens, ou chez nos partenaires comme la Bibliothèque nationale de France ou les Archives nationales, parce que je suis très admirative de l'histoire des musées en France. Moi, je viens d'un pays, en Argentine, où malheureusement, on n'a pas cette structuration de la culture, ni cette législation très ancienne qui protège le patrimoine, les monuments historiques. Et je trouve que c'est quelque chose d'important aussi à signaler. Aujourd'hui, on critique beaucoup les musées, ou alors le fait que nos collections soient inaliénables, mais ce n'est pas des lois qui ont été créées pour ne pas restituer les objets, c'est des lois qui ont été créées il y a très longtemps et qui ont servi à protéger les collections de la Révolution française, de beaucoup d'événements qui auraient pu être dévastateurs. Et pendant ces périodes, en fait, on a protégé l'art français, mais on a aussi protégé l'art du monde entier, en fait. Je veux que quand les partenaires autochtones repartent chez eux, ils aient leur propre expérience de ce que sont ces lieux d'histoire et de conservation, pour comprendre que les nations autochtones qui venaient ici en représentation, ou les objets qui ont été collectés ou offerts, étaient vraiment très valorisés.
Dans le voyage des invités de Paz Núñez Reguero, les wampum occupent une place à part. Ils sont le symbole de la souveraineté passée des nations amérindiennes, avant leur lente descente aux enfers et la négation de leur identité par les gouvernements canadiens et américains. Deux de ces wampums sont conservés dans la cathédrale de Chartres et ils ont gardé toute leur histoire.
Il s'agit de wampums qui ont été offerts par des communautés converties, des Hurons Wendat de la Jeune Lorette, près de Québec, qui offrent à la Vierge Marie, un wampum en 1678. Et on garde encore la lettre en français et en langue Huron-Wendat. Et en l'occurrence, ce message dit que les Huron-Wendat sont désolés de l'avoir connu si tard, mais qu'ils vont se rattraper. Et vous avez un autre collier aussi qui a été envoyé par les Abénakis de Saint-François, donc aujourd'hui Odanak, qui transmettent un wampum très très grand, c'est un des plus grands qui soit conservé. Il est fait de 11 000 perles de coquillages wampum. Et c'est une pièce qui est donc offerte en 1699 à Chartres également et qui est toujours conservée dans le trésor de la cathédrale.
En 2023, pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, les wampum des collections royales françaises ont traversé l'Atlantique dans le sens inverse. Paz Núñez Reguero et ses partenaires issus des nations autochtones ont monté une exposition autour de ces objets si symboliques. Ils l'ont d'abord installée au centre culturel Seneca, dans l'état de New York. Leur arrivée en mars 2023 a été l'occasion d'une grande cérémonie.
Ça a duré presque une heure et pendant cette heure, il y a eu du soleil, de la pluie, de la neige et du vent, mais c'était très émouvant. Toute la cérémonie a été faite en langue Seneca. Et ensuite, il y avait un traducteur qui nous expliquait les choses. Et je pense que les autres participants avaient, comme moi, l'impression de vivre un moment historique. Ça a donné tout le sens au travail que j'ai engagé depuis plusieurs années avec mes collègues, voir que ces pièces, elles ont encore un rôle important à jouer dans la société.
Parmi les wampum, dans l'exposition inaugurée ce jour-là, il y avait le wampum des quatre guerriers, celui que le chef Mamantuensa a peut-être fait remettre en 1725 au roi Louis XV en signe d'allégeance de son peuple et des nations alliées. Les descendants de ces nations ont été conviés à la cérémonie et aux côtés de Paz Núñez Reguero, ils ont pu admirer l'imposant collier cérémoniel.
Alors c'est vrai qu'on est toujours un petit peu troublé parce que cette proposition d'attribution ne reste qu'une hypothèse. tout le monde essaie toujours de faire très attention, on est toujours très prudent. Mais là, vous voyez, vous aviez des gens qui étaient venus exprès pour accueillir ce wampum en raison de l'hypothèse que l'on avait avancée. Et aujourd'hui, quand je vois les objets, depuis le début de cet entretien, vous me demandez qu'est-ce que je vois dans les objets. Ben, en fait, je vois les visages de mes partenaires ou alors j'imagine ceux de leurs ancêtres. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est des objets qui sont devenus vivants. Les objets, ils sont magnifiques, mais quand vous voyez les relations qui se tissent aujourd'hui autour de ces objets, c'est encore plus beau et plus enrichissant.
Après l'État de New York, l'exposition Wampum Haute Goa, l'aboutissement de 3 siècles de relations et 4 années de collaboration, sera présentée à Montréal, au musée McCord, jusqu'à fin mars 2024. Paz Núñez Reguero a désormais pour projet de lancer un travail collaboratif autour de la géographie et de la toponymie des territoires autochtones au XVIIe et XVIIIe siècle, grâce aux objets des collections royales, mais aussi des cartes dessinées par les Français à l'époque en Louisiane et qui constituent une archive historique unique. Ce podcast est produit par l'Institut National d'Histoire de l'Art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Merci pour votre écoute.